Bonjour, Autre Radio, Autre Culture, émission qui sera également diffusée sur audiopeople.fr. Aujourd'hui, nous recevons et nous avons la chance de recevoir Luc Périgny. Bonjour Luc.
Bonjour.
Luc est un très grand ingénieur du son du cinéma français qui a également travaillé à l'ORTF et qui va nous raconter un petit peu sa vie. Alors, qu'est-ce qui vous a amené au son, Luc ?
En fait, c'est un disqueur, curieusement. Au départ, j'étais pas du tout sur les rails du son. Et trouvant les filles belles, j'avais envie de faire la sculpture. Et en cours du soir, j'allais à Montparnasse, où il y avait une école de modelage. Et ce qui m'intéressait, c'était effectivement l'image. Et puis j'allais au cinéma, j'avais eu la chance de voir quelques films de Buñuel, j'étais très passionné par cette forme de récit, et j'avais aussi une attirance pour les musiques, et un ami disquaire, qui était très gentil, me laissait écouter pendant des heures dans sa cabine des sons. Quand j'allais en vacances... en Corse, qui est mon pays d'origine, il faisait très chaud, j'avais une petite chambre. Est-ce que c'était des hallucinations dues à la chaleur? Mais dans ma tête, je me disais qu'il devait y avoir des musiques plus modernes que des valses, des choses comme ça. Et j'entendais des bourdonnements, des sifflements, il y avait aussi beaucoup d'insectes en Corse, etc. Et je me disais que tout ça, ça faisait partie d'un langage qui était quelque part, et qu'il fallait découvrir. Et je me réservais de le faire. Pourquoi pas? C'était une aventure de gosse. Et quand je suis revenu à Paris, évidemment, quand je revenais à Paris après les vacances, je me précipitais dans la cabine du disqueur pour écouter Darius Milhaud, assez oublié aujourd'hui, mais qui faisait, dans L'homme et son désir, une symphonie de bruit. Et ces bruits étaient faits pourtant avec des instruments d'orchestre ou des instruments de percussion, enfin, mais homologués comme étant tels. Et j'écoutais aussi Schoenberg, Varèse, etc. Et j'avais des frissons, parce que je trouvais que c'était proche d'un langage presque extra-humain. C'était, si vous voulez, la science-fiction musicale de l'époque.
Et cela vous a pas poussé à devenir, par exemple, compositeur ?
Devenir compositeur, c'est plus tard. Le trajet était tel que je suis parti vite au service militaire, mais qu'avant le service militaire, j'avais eu le temps de faire un certificat d'électronique. Ça m'avait formaté un peu sur le plan scientifique. Et ça m'avait donné surtout de l'assurance, parce que quand on est un enfant un peu loup, résidu de la guerre, qui avait fait son trajet à l'école normalement, je veux dire, mais sans grande brillance, assez bon en français, il fallait de l'assurance quelque part. Et en fait, la technique... par son résultat immédiat, positif et indiscutable, me rassurait. Donc j'avais fait ce certificat d'électronique. Et au retour, par besoin familial, puisque j'avais déjà un enfant, il fallait que je travaille. Et José Bernard, qui était une personne importante du son, qui a été contacté par des amis à moi, des amis de la famille, m'a fait entrer à l'office de l'ORTF. Enfin, ça, c'était l'ORTF de Gaulle. J'ai tout de suite été catapulté sur des appareils de son. J'ai fait la liaison, évidemment, puisque le disquaire en question, lui, faisait des enregistrements aussi. Il m'avait quelquefois utilisé comme assistant pour ranger les micros et tout ça. J'avais travaillé avec lui à la Schola Cantorum, je me rappelle bien. Le double concerto de Bach, ça m'avait ébloui. Et la prise de son, c'était quelque chose. Qu'on ait mis ça dans la boîte, c'est formidable. Ce disquaire était une personne vraiment charismatique. Il s'appelait Jean Postif. Et il avait eu la gentillesse de m'apprendre le montage son à l'âge de 18 ans, avant que je rentre à la télévision, comme on dit. Et il m'avait confié un montage très important, compliqué, avec des tangos. Il avait enregistré des disques de tango. Il fallait couper au bon endroit, il fallait jeter les résidus dans le panier, mais pouvoir les récupérer, etc. Tout le montage manuel, artisanal, comme ça se faisait. Pourquoi j'ai ensuite bifurqué ? Ben en fait, on m'a mis en présence des machines, une table de mixage avec des boutons rotatifs, dans une cabine où il y avait quatre pick-up, dont deux en 33 tours, mais deux en 78 tours, vous vous rendez compte ? Et c'était vraiment très artisanal, une glace et un commentateur avec un rouge. Et on lançait les opérations et c'était du direct. Il fallait être présent et je travaillais debout d'ailleurs, parce que c'était plus facile pour aider au départ de disque ou pour bien regarder ou pour se tenir éveillé, parce que finalement, bon, c'était de la télé. Mais c'était de la télé en différé. Il y avait des fois des discussions, il y avait aussi des commentaires de films, il y avait du Zitrone, etc., etc. On a connu tout ça. Ensuite, pourquoi j'ai ronronné dans ce système ? Mais bon, c'était pas très créatif. C'était simplement le coup d'avoir des réflexes au potentiomètre, de regarder une aiguille, de contrôler le son, la qualité du son, la position des microphones, mais c'était pas encore, je veux dire que je connaissais que deux positions de microphone, j'avais pas encore fait le tour. Et j'ai demandé de changer et de me rapprocher du cinéma, parce que par chance, à Cognac-Jay, il y avait une section qui allait faire des films à l'extérieur. C'était des films de télévision, c'était des films comme La Découverte des Français, comme les voyages de certains voyages, mais enfin on n'allait pas tellement loin, mais autour de la France. Donc on partait avec une voiture son et un chef son. Et moi, évidemment, j'étais, quoique chef son mixeur, j'étais, à chaque fois qu'on change de section en administration, on rétrograde. Donc je me suis retrouvé Perchman, ce qui est moins qu'un chef son. Très bien, mais j'ai eu l'intérêt d'écouter ce que ça donnait, les positions de micro différentes qu'on peut avoir avec la perche. Et ça m'a appris pas mal de choses, et ça m'a appris aussi la technique du son cinéma.
Donc vous avez été Perchman, vous oui. avez travaillé dans des courts-métrages et longs-métrages à la télévision.
C'est cela.
Comment on passe au cinéma, le cinéma, avec le C majuscule ?
Ça dépend d'où on vient, je vous répondrai, mais venant de la télévision, à l'époque, c'était pas si facile. À mon avis, le cinéma est toujours assez difficile d'accès pour une personne qui, même, serait formée par une école. Pourquoi ? Bon, c'est un peu comme ça, c'est assez compliqué, c'est par les relations avec les gens, c'est un travail technique. Beaucoup de gens, enfin à l'époque où je suis entré, eh bien, il y avait en tout et pour tout 5 ingénieurs du son ou 6 qui travaillaient, vous vous rendez compte ? Certains travaillaient sur 2 films à la fois. Dans les studios de Boulogne, il y avait 2 plateaux. Et il y avait des ingénieurs du son qui avaient, par un jeu d'assistana, c'est-à-dire qu'ils confiaient leur console à un assistant, ils avaient des équipes de 3, en somme, et ils couraient d'un plateau à l'autre, tentant, ils s'arrêtaient au bar, etc. Bon, on a connu De Bretagne et Sivelle. C'était les grands des grands, c'était les dieux. De Bretagne, parce qu'il allait en Amérique et il ramenait des matériels ou des microphones performants. Il était au courant, il avait une sono personnelle pour dire silence, pour appeler les acteurs, etc. Il était très perfectionné. Tout ça, ça tenait dans une camionnette. Et le soir, on rangeait tout ça. Enfin, j'ai dit « on », il rangeait tout ça. Ça, c'était les dieux pour moi, bon, bien sûr. Et quand je suis arrivé dans cette section, ce qui serait intéressant, c'est de regarder la liste des ingénieurs du son de cette époque, de 48 à 52, vous verriez que sur l'annuaire du cinéma, il y en avait fort peu. Ça a augmenté avec le nombre de films. Et ces gens-là, souvent, je voulais répondre à votre question, souvent mettaient leur fils c'était héréditaire, mettaient leur fils dans le métier, leur apprenaient la perche, etc., etc. Et encore aujourd'hui, il y a des noms qui reviennent. L'excellent Guy Roffet, par exemple, qui était un bon ingénieur du son, surtout de studio, mais de plateau aussi, a formé son fils, qui aujourd'hui fonctionne très très bien et fait beaucoup de films avec beaucoup de succès parce qu'il a beaucoup de talent. Donc ça se fait encore.
Est-ce qu'on peut parler d'un système corporatiste ou plus particulièrement d'un système de caste?
Justement. Il y a un système corporatif et un système de cartes qui existe toujours parce qu'il faut faire une sélection et elle est absurde, mais le système est lui-même un peu absurde. Vous pouvez, si vous sortez pas d'une école ou si vous venez d'une discipline connexe, c'est difficile parce qu'il faut, on tourne en boucle, il faut avoir fait des longs métrages pour avoir sa carte, mais pour avoir sa carte, il faut avoir fait des longs métrages. Donc, c'est un peu compliqué. Mais, enfin, il y a des échelons. C'est-à-dire que si vous avez fait 3 films comme Perchman, vous pouvez avoir une dérogation qui vous permet de faire un premier film comme chef opérateur. Voilà, chef opérateur du son. Et de la même façon, si vous n'avez jamais été Perchman, vous pouvez, d'après le centre, avoir une dérogation pour faire une première perche. Donc, c'est un système compliqué. Enfin, à l'époque où je suis entré, il fallait en plus l'avis du syndicat. À mon avis, aujourd'hui, il ne le faut plus. Mais à l'époque, il y avait l'avis du syndicat. Vous voyez que c'était compliqué. Donc mon cas était rebelle parce que non seulement je n'avais pas fait de long métrage ni de court métrage déclaré au centre, j'avais fait des choses de pub, j'avais travaillé sur des pubs, mais je n'avais pas de long métrage à mon service, à fournir au centre. Mais en plus, il fallait que je passe le barrage syndical. Or, les syndicats s'opposaient à ce que les gens qui avaient 5 ans ou 6 ans de métier à la télévision puissent travailler sur les films. Il y avait une opposition corporatiste, qui, je crois, n'existe plus aujourd'hui, puisqu'il y a plusieurs syndicats. À l'époque, il n'y avait qu'un syndicat.
Alors, vous avez dit tout à l'heure, vous avez travaillé dans les longs-métrages, courts-métrages, et également dans la pub. Est-ce qu'il y a une grosse différence dans la prise de son de la pub pour tout donner un impact particulier?
Alors, la pub, c'est synthétique. Le fait qu'on ait peu de temps pour délivrer un message fait que souvent, on précipite, par exemple, le débit du message. Ça paraît même un peu artificiel. Il faut que le message soit très vite. Il y a un temps très court, après quoi on passe au packshot, etc., etc. Bon, on n'a pas beaucoup de temps pour instiller une musique. Et quelquefois, la musique, elle est pulsée à l'intérieur de la publicité. Et ça fait un tout qui n'est pas très esthétique, au point de vue sonore. Maintenant, il y a des cas d'exception. La mère Denis, j'ai fait la mère Denis avec Jean-Jacques Hano, tout le monde se rappelle la mère Denis, elle était derrière sa machine à laver, et elle devait dire, je ne sais plus, vedette c'est formidable, ou je ne sais pas quoi, vous vous rappelez du message, vous l'avez connu.
Je l'ai connu, oui.
Le seul problème, c'est que la mère Denis, heureusement, criait très fort. Très très fort. Mais le seul problème, c'est que la machine à laver faisait beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Et qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Le temps que la machine à laver s'arrête, la pub était finie. Donc, il fallait que le message passe. Alors, un câble par la fenêtre, un micro-cravate, et ça, c'est là où le matériel est tellement important, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Un micro autour du cou. Surtout pas de présence dans la pièce, parce que la pièce était une petite cuisine, et il y avait l'opérateur déjà, les lumières et tout, et le fil par la fenêtre, et le tour était joué, si vous voulez, parce que tout le spot était occupé par la présence et par le son direct. Mais il fallait encore le faire, ce son direct, parce que c'est à cause de la machine à laver, toujours pareil. Et ça n'a pas été post-synchronisé. C'était un truc de Jean-Jacques Hano. En d'autres cas de figure, et au point de vue de la structure, j'ai travaillé sur des pubs où on chantonnait. Alors, il y avait des chansons, un chœur et tout ça. Et puis, passe-moi la sauce, mousseline, etc., etc. Purée mousseline. purée imbattable, etc. Et ça, c'était des pubs musicales un peu grotesques et qu'on fait plus beaucoup aujourd'hui. On les fait moins, mais enfin, on fait un peu de tout en pub. Hein. Et il y avait des pubs avec des lions, et des pubs ceci. Il fallait que ce soit presque romain ou alors. Bon, j'aime bien la pub parce que c'est fantaisiste, mais j'ai travaillé sur une pub pour Fichet. Il y avait en proposition des musiques, de la percussion. Fichet, c'était rien. C'était très bien parce qu'en fin de compte, on voyait un verrou éclater en gros plan. On voyait une porte, on zoomait sur la porte, on entendait les bruits off de l'autre côté, les bruits du type qui poussait la porte. Et tout d'un coup, le verrou explosait. Dans une image un peu travaillée. Et c'est l'effet sonore seul qui a été pris. Tout le reste a été éliminé. C'est étonnant.
Oui, effectivement.
L'effet était assourdissant dans la salle, c'était comme si l'écran était pété. Donc ça faisait le bœuf et le directeur artistique a dit ben, on prend l'effet sonore. C'est pour vous dire que le son, c'est pas mal de choses, ou pas mal de spécialités, ou pas mal de techniques en même temps. Ça n'est pas qu'un micro qui est pendu au-dessus et qui recueille les informations, mais c'est fragmenté.
Alors avant de parler, de s'étaler un petit peu sur les effets sonores, oui. Je voulais juste qu'on parle sur quels critères finalement on engage un ingénieur du son, que ce soit au niveau des longs métrages ou au niveau des pubs.
Quelle question. Si je vous disais que à l'office où on n'était pas maître du personnel qu'on employait parce qu'il était administrativement distribué, on m'a proposé, comme je travaillais souvent seul, j'aurais dit, vous savez, si on a beaucoup de films et tout, moi je suis fatigué, je ne peux pas percher et faire le son comme ça. C'était chez Schaeffer, et chez Schaeffer, il y avait une section spéciale, on n'était pas très riche, et on avait une section spéciale expérimentale d'image. Mais l'essentiel chez Schaeffer, c'était des studios où on enregistrait des musiques, où on travaillait les sons un par un. Alors, moi, j'étais engagé parce que comme j'avais connu le service cinéma de Cognac Jay, j'étais utile et utilisable en technique cinéma. Mais ce qui m'intéressait beaucoup plus, et j'étais mixte, c'est-à-dire j'étais distribué sur quelques tournages dans la semaine, et le reste du temps, j'avais le droit d'ouvrir les studios, de faire des recherches avec les micros, les instruments spéciaux qu'il y avait là-bas, et aussi les instruments de cabine. Voilà. Mais pour revenir à la perche, si vous voulez, c'était un travail spécial. Mais je dis, il faudrait un assistant quand même. Ah, vous savez, on n'a pas d'assistant formé ici à la télévision. On n'a pas d'assistant. Vous êtes assistant et chef et puis vous vous débrouillez. Ben non, mais quand même, il faut quelqu'un. Et on m'a dit, il y a si fait, il y a un garçon là qui est là, qui est projectionniste et il projette les images, il est très gentil, oui, je le connais, oui. Mais prenez-le comme assistant. Il dit, bon, je veux bien essayer. Mais le malheureux boitait et il avait un œil complètement qui regardait de l'autre côté.
Un strabisme
divergent, c'est ça, c'est l'expression, mais très très exagéré. Il pouvait pas faire un Perchman, physiquement, parce qu'il trébuchait dans les câbles, et parce qu'avec son œil divergent, il pouvait pas voir à quel endroit le micro se trouvait au bout d'une perche de 2 mètres. Donc il était au-dessus de la tête ou en dessous. Bon, premier critère, donc c'est la et ça c'est pas respecté. Je continue à dire qu'il y a des gens qui sont incapables de faire de la perche, par exemple. Et puis encore, un ingénieur du son qui se trouverait à avoir une oreille déficiente ou une oreille spéciale, ce qui existe, qui entendrait trop les aigus ou qui entendrait mal les aigus ou qui aurait en stéréo une oreille abîmée, normalement est impropre au travail. Ça paraît évident. Mmh. Ben donc ça, c'est un critère qui n'est pas pris en compte. Les critères qui sont pris en compte, puisque c'est ce qui vous intéresse, c'est en fait, si vous voulez, l'intérêt que peut porter quelqu'un pour un message sonore. Le critère, normalement, devrait être une connaissance du matériel très poussée. Mais c'est de moins en moins le cas, puisqu'il suffit aussi de savoir utiliser le matériel. On n'est pas obligé de savoir. Moi, pour mon principe, un bon tirailleur doit savoir démonter son fusil et le remonter, le graisser. Mais c'est plus appliqué et c'est plus applicable. On est d'accord. Donc il suffit de bien manipuler, d'être vif, d'être actif, vif, de bien entendre, de ne pas être idiot, d'avoir un QI minimal. Mais tout un chacun peut faire de l'enregistrement au bout d'un certain training. Il y a une attention qui est polarisée.
Quelle est la vision artistique dans ces cas-là?
Il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui n'en ont pas. Et il y en a qui sont pas spécialement émus par telle ou telle réalisation, qui ferment le couvert quand ils ont fini, puis qui vont boire un coup, n'ont pas spécialement de vision artistique. Ils ont comme vision artistique le chèque à la fin de la semaine, ou bien l'intérêt que l'acteur suscite autour d'eux. Si vous voulez, la publicité que ça fait de l'avoir travaillé sur un bon film, etc. Mais bon, c'est pas forcément un métier artistique. J'ai justement voulu m'amener à d'autres volets du son où on sent une création. Yeah, ça existe.
Oui, parce que, enfin, pour ma part, que ce soit dans un film, même dans un surtout dans un documentaire, pour moi, le son est prioritaire, puisque c'est lui qui crée une ambiance. C'est lui qui crée l'ambiance, qui crée cette espèce de relief que l'on a, cette espèce de ressentiment.
C'est lui qui crée l'ambiance s'il veut bien ouvrir plusieurs micros. Normalement, on lui demande surtout de ramener du texte, enfin, comment on dit, du dialogue, et du dialogue intelligible. Le reste étant souvent travaillé derrière. Maintenant, il y a deux écoles. J'ai connu les deux aspects de la question. Par exemple, chez Schaeffer, des parlottes interminables de psychologues autour d'une table où on promenait comment on le filmait. On était obligé de le faire à la perche. C'était plus efficace que de mettre plusieurs micros parce qu'on ne sait jamais quel micro ouvrir puisqu'on ne sait jamais qui va répondre. Donc à la perche, on le voit très vite et on est dessus. Mais c'est un aspect de la question. J'ai connu ensuite, et toujours par Schaeffer, parce que je lui dois beaucoup, c'est mon père spirituel. J'ai connu des expériences qu'il a faites en subventionnant Mario Ruspoli, qui est en France le père du cinéma vérité. Et le cinéma vérité, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que c'était une explosion dans le cinéma. Ça a permis à la télévision de faire du son en léger. Et avec Jean Rouche, si vous voulez, ce sont les deux créateurs du genre cinéma direct léger. Alors ça voulait dire quoi? Ça voulait dire plein de choses. Et ça, c'était extrêmement créatif. C'était extrêmement, pour moi, presque plus créatif que la musique, à laquelle je suis revenu plus tard. Ça voulait dire que, par les moyens, on avait les moyens de s'effacer, si vous voulez, d'avoir un magnétophone très léger, et par tous les moyens possibles, que ce soit un micro caché sur la table, que ce soit un micro porté, que ce soit une perche, une petite perchette, pas un grand machin, mais une petite perchette, vous deviez vous introduire chez les gens, parler avec eux. Il y avait un aspect complètement osmotique dans une équipe de très très petite dimension. Généralement, il y avait un opérateur qui lui posait pas trop de questions et un réalisateur qui était souvent intervieweur, mais qui était quelquefois assistant aussi un petit peu et aidant un peu aux lumières. Donc une équipe de trois. Et l'expérience Marvejol, par exemple, c'était d'aller dans un village sans expliquer trop ce qu'on faisait, en disant, oui, on vient voir, on fait du cinéma et on aimerait parler aux gens ici, on aimerait parler et s'introduire et y rester un mois. Et les gens, après, nous disaient, vous devriez voir machin, aller voir machin, il fait des fromages terribles et tout. Vous devriez aller ceci ou cela. Tenez, allez voir. Mais alors, est-ce qu'il y a un instituteur ici? Oui, il y en a un, mais il circule parce qu'il a plusieurs villages à s'occuper. Il s'appelle Monsieur Gazot. allez le voir. Et puis après, allez voir donc la mère machin. C'était pas une mère de Nîmes, mais presque pareil. Qui sait tout et tout sur le Cantal, qui va vous parler de Pompidou et tout. Et c'était extraordinaire. Elle savait qui était Pompidou dans ce village de Marvejols. Elle savait qu'il était avec Jeannonet. Elle savait qui allait venir. Elle savait. Elle connaissait Chirac qui avait 15 ans et tout. Extraordinaire, extraordinaire. J'ai vu tout ça se dérouler après. Et c'était le cinéma direct. Les gens nous disaient tout. C'était déjà le début des ITV télévision qu'on fait. Après, j'ai continué avec un type extraordinaire qui s'appelle Michel Brault, qui était canadien, il existe toujours, qui est canadien, je pense qu'il vit toujours, et qui était un spécialiste du direct. J'ai connu les Maisels, et j'ai connu Pennebaker à Cannes. J'ai connu des gens qui étaient pionniers du genre, et qui savait marcher avec une caméra sur l'épaule sans faire de faux mouvements, et qui était capable de faire un film dans le métro d'une heure et demie, passionnant, comme Rouge, parce que ça, c'était l'aspect collé à l'humain, le respecter, tourner beaucoup, couper après, mais couper seulement, mais pas trop trafiquer, et respecter le réel. Pour moi, ça, c'était plus respecter le réel que prendre un acteur. L'acteur lui-même n'est pas réel. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui,
l'acteur lui-même se fabrique, d'accord? Alors que les gens dans la rue, quand ils ont un certain degré de sincérité, qui ne sont pas trop stressés par le fait qu'on les filme, expriment le vrai réel. C'était la théorie du cinéma vérité. Bien sûr qu'il y avait toujours un petit peu de voyeurisme ou un petit peu d'exhibitionnisme, mais pas vraiment. On arrivait très vite à une fraternité avec l'image, et ça faisait un tout. Et c'est quand même très beau. Donc c'est pour répondre à votre besoin de créativité sur le plan du son. Et il y a une créativité dans ce sens-là, comme il y en a une autre à recueillir des bruits d'animaux, ou de faire une sonothèque avec des chiens. Le chien est une bête qui exprime par ses gémissements et ses choses un monde sonore énorme. Un monde sonore, un monde de signaux. Tout est intéressant, tout est créatif. Le micro lui-même, en somme, pourrait être créatif, mais je pense qu'il y a des zones où il l'est plus ou moins.
Alors on va revenir
sur
tout le travail, mais tout à l'heure, hors antenne, nous avions parlé du problème de l'analogique avec le numérique, et justement vous parlez d'enregistrement d'animaux. Et vous disiez, je n'ai pas trouvé dans le numérique ce que je peux faire en analogique au niveau de ces enregistrements.
Oui, alors je vais, tout le monde le sait, mais les oreilles sont un système. Nous sommes analogiques. On ne peut pas parler du cerveau, mais les synapses qui sont capables de se reconstituer. Enfin, en tout cas, les neurones sont capables de se reconstituer. Et les synapses, il faut les exercer, mais elles peuvent se reconstituer après un choc dans le cerveau, après une balle ou des choses comme ça. C'est déjà l'exemple de ce que l'analogique peut fournir. Si vous voulez, je ne connais aucun système numérique qui se reconstitue quand il a été démoli. Voilà, c'est clair.
Je veux dire, oui, bien sûr,
bon,
oui.
On raconte des histoires sur les robots, le jour où ils répareront leur mémoire, on n'en est pas encore là. Bon. Et d'autre part, les oreilles sont un organe d'appréciation sensorielle qui est soumis à certaines variations, qui n'est pas tout à fait scientifique. Vous pouvez avoir l'oreille fatiguée à certains moments, l'oreille fraîche un autre jour, mais elle est donc analogique. Donc déjà, un bout de la chaîne, le récepteur, comme dit Schaeffer, vous êtes dans l'analogique, et dans la technique elle-même, on a jusqu'à présent, pour faire bouger l'air, rien trop trouvé de valable, à part le haut-parleur, qui lui est un organe de couplage analogique, et on n'a encore pas trouvé, de façon valable, on cherche, mais ça va venir, comment recueillir un son, sinon de façon analogique, en faisant bouger une membrane, enfin, qui est sensible à la pression acoustique. Par conséquent, tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est de la cuisine. Qu'elle soit, que vous fassiez avec du surgelé ou que vous fassiez la cuisine avec du frais, Ben, ma foi, c'est une affaire de cuisine. Vous comprenez ? C'est que la cuisine à l'intérieur soit faite en digital ou qu'elle soit faite à l'intérieur en analogique, le tout, c'est qu'elle obéisse à certains critères de digestion. Voilà.
Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé ? C'est le, par exemple, on sait que vous avez gagné, vous avez été récompensé par 2 Césars au niveau du son dans Black Moon, et ainsi que dans Subway. Qu'est-ce que cela vous a apporté au niveau du son de travailler dans le long métrage ?
Si j'avais pu, j'aurais essayé de travailler dans plusieurs domaines en même temps que dans le long métrage. C'était pas forcément le long métrage qui me satisfaisait le mieux. Les courts métrages, pour commencer, sont très intéressants. À mon avis, l'ingénieur, il faudrait pas dire l'ingénieur, le concepteur sonore, l'homme du son, le soundman, disons, comme vous voulez, le designer, si vous voulez, a beaucoup plus de liberté dans un court-métrage, et il est beaucoup plus proche du réalisateur qu'il ne pourrait l'être dans un long-métrage. Le long-métrage est une machinerie, une énorme machine financière, où chacun a sa part, à sa place, et où les gens ne se parlent que par le résultat, que par la technique, mais ils ne se parlent pas tellement dans le projet. Le projet est sous-entendu, on a un scénario, on l'a lu, on a noté les endroits difficiles, on en déduit le matériel nécessaire, et on fait le travail, et puis après on regarde en projection, et puis c'est tout, bon point, on se serre la main et bye bye. Il y a beaucoup moins de contact, comment on dit, subjectif, entre les gens que dans le court-métrage, où il y a une chaleur beaucoup plus grande. Voilà. Alors, ce que ça apporte, ben oui, il y a toujours l'aspect financier, mais le son, moi, si vous voulez, j'ai une sonothèque. Bon, c'est comme de garder des bébés. Je veux dire, j'en voudrais beaucoup, 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 beaucoup. Et ça me satisfait. Le fait de collectionner des sons, de les sélectionner, ça m'intéresse aussi. Tout est créatif. Rien de sonore ne m'est étranger. Vous connaissez le... C'est une paraphrase. Rien d'humain m'est étranger. Mais comme le sonore, quand il rentre dans nos oreilles, devient humain, quelque part.
Il n'y a pas des réalisateurs qui sont intéressés, justement, d'avoir une espèce de symbiose entre l'ingénieur du son, l'éclairagiste, pour donner des ambiances et qu'elles soient conservées jusqu'à la fin, jusqu'après le mixage, jusqu'après le montage?
Eh bien, je vous disais, le respect du réel dans le cinéma vérité. En général, on cherchait à ce que l'homme soit dans une ambiance. Oui. De toute façon, on l'avait. Hein. Quelquefois, elle avait trop. Je fais avec Bro un truc chez Citroën que De Gaulle a demandé à voir parce que c'était un film d'Ali Trigo qui s'appelait « Les enfants de Néant ». Néant étant un petit village qui existe réellement. Et c'était un sujet, un paysan abandonne sa charrue pour travailler à l'usine. Sujet sociologique intéressant. Alors, pour la première partie, le paysan, avec ses... Et puis, éventuellement, quelques bêtes, et puis la charrue, le bruit de la charrue, l'environnement, l'ambiance, la vibration de la terre, si je puis dire, c'est poétique, mais bon, traduite par le micro, les encouragements, parce qu'il avait encore à l'époque une bête qui tirait une vraie charrue à main. Et les encouragements en patois, etc., tout ça c'est très beau, ça fait de l'ambiance et tout. Puis après, la deuxième partie, c'est l'usine. Et alors là, on tourne dans l'usine et on décrit le matériel, les presses, qui font un barouf épouvantable, et quelques ordres, etc., et les pièces automobiles qui tombent découpées. Alors, vous voyez bien que l'ambiance, là, c'est deux choses. Je veux dire, il y en a une où il y en a trop, presque, et où on a envie de forcer la chose encore tant qu'à faire, en mettant des super bruits. Et puis, une ambiance qui va avec l'homme, une ambiance qui va avec le sujet, c'est pas forcément... incompatible. Mais enfin, au départ, le son recueille l'ambiance toujours. Je veux dire, les Américains, quand ils font, ils ont classé tout ça chez eux. En partant du haut, on va dire, bon, il y a le mixeur, le co-mixeur. Ce sont des gens qui travaillent assis et sur une table compliquée où ils font des distributions sonores, etc., etc., et des assemblages. Avec des marches arrière et en présence des responsables artistiques et même quelquefois financiers. Et vous avez donc ces personnages-là. Et en dessous, à la création, à l'enregistrement du son, vous avez le chef opérateur du son, mais qui, chez eux, est dialogue engineer, et ne fait que recueillir le dialogue et il mène pratiquement un nosegate directement à l'enregistrement. C'est-à-dire qu'en fait, il coupe l'ambiance que vous vous réclamez. Donc, on pourrait dire qu'il y a peu de créativité. La créativité, c'est celle des expressions de l'acteur. Et indépendamment de ça, ils ont trié. Alors, indépendamment de ça, le traitement de la parole, si vous voulez, est complété à la post-synchronisation. Quelquefois, on remplace quand c'est trop mauvais et qu'on ne peut pas utiliser le direct. Il est complété à la post-synchro. Qu'ils appellent le ADR, l'Automatic Dialogue Replacement, et qui souvent remplace sur une séquence entière le direct. Pourquoi ? Parce qu'on coupe les scènes en petits morceaux, on utilise un gros plan, un morceau d'œil, on fait tout ce qu'on veut au cinéma. On prend un plan général, il y a une contraction du temps, et dans les contractions du temps, il y a toujours un aspect où le son perd sa vérité. Voilà. Et on acquiert une deuxième d'ailleurs, une autre. Une deuxième réalité. Mais en dessous, si vous voulez, vous avez évidemment l'homme de la perche, bon, qui est très important, mais c'est pas seulement ça. Et d'une façon connexe, et là, pour retrouver la créativité, on adjoint, enfin, c'est le réalisateur, s'il le demande, qui, au lieu de confier seulement au montage le travail de recoller les morceaux, s'adjoint une personne qu'on appelle le sound designer.
Je remercie tout particulièrement Théo Manoni qui nous a permis de connaître Luc Perrini et qui a fortement insisté en disant que c'était un homme fabuleux. Et effectivement, j'affirme. Donc, ici, autre radio, autre culture. À très bientôt. Au revoir. Autre radio, autre culture.